I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Pascaline Podevin, Philippe Azouri, Hugo Cassavetti, qui ne doit pas s'approcher du micro. Hugo Cassavetti, vous savez, ce sont des nouveaux studios depuis la fin de l'exercice précédent. Et vous qui avez l'habitude de manger le micro, il va falloir que ça change.
Ben oui, on ne me nourrit pas assez.
Les micros sont... Bon, vous verrez ça avec la rédaction de Télérama. Un autre programme ce soir, Rubber Band de Miles Davis, 12 Nude de Ezra Furman, Infest the Rat's Nest, The King Kizzard and the Lizard Wizard, et un coup de cœur d'Hugo Cassavetti, qui s'emparera du micro pour nous parler de Face Stabber du Ossies. Nous ouvrons cette dispute avec un album inédit de Miles Davis, Rubber Band. Évidemment, on peut s'étonner, près de 30 ans après la mort du musicien de cette sortie, la circonspection peut être grande. À la suite de cette annonce, il faut un peu expliquer quand même la genèse de cette sortie. En 85, Miles Davis avait quitté Columbia, avait signé chez Warner, était entré en studio, il avait démarré l'enregistrement de ce disque, Rubber Band, dans lequel il joue trompette et clavier. On verra dans quelle terre il s'aventure, ça on va en parler, mais Warner décide de ne pas donner suite à ce disque, donc Miles Davis qui avait quand même toujours beaucoup de choses sur le feu, en sortira d'autres, mais celui-là restera dans des tiroirs, on dit toujours des tiroirs, mais en fait ce sont plutôt des armoires, des placards. En 2017, les producteurs de la session de 85, ainsi que le neveu de Miles Davis, neveu qui jouait de la batterie sur certains de ses enregistrements, ont décidé ensemble de compléter les morceaux, et notamment inviter Leila Hathaway et Lelizzy à poser leur voix sur ceci. Qu'est-ce que ça donne? On va écouter un exemple de ce disque avec le morceau « Give It Up ». We'll be right back. Give it up. Comment traduirait ça, Hugo Crescevici?
Give it up, bah, tout lâcher, quoi, abandonner, non?
Est-ce qu'on lâchait ce disque? Non, c'est une blague. Non, on s'est un peu amusé pendant la diffusion de cet extrait. Alors, j'ai choisi un morceau sans voix. Peut-être que je m'en expliquerai dans un instant. Mais alors, un avis un peu synthétique sur ce disque avant de développer. Pascaline Potvin?
Non, moi, un disque un peu difficile, un espèce de Frankenstein qui a du mal à marcher quand même.
Hugo Cassavetti?
On aurait pu rêver d'un Love Supreme à la Coltrane. On a un Lounge Supreme à la Kenny G.
Il est pas zouré.
Oh, juste une question, pourquoi?
Alors, pourquoi? Pourquoi? Et ils ont l'air de vouloir bien faire, hein, toutes ces personnes qui ont présidé à la sortie de ce disque. Alors, aller chercher des chanteuses, est-ce que je fais un deuxième tour de table? Était-ce une bonne idée, Philippe Azoré?
Pourquoi?
Pourquoi? Lucas Savetti?
Bah, tant qu'à faire.
Tant qu'à faire, et ouais. Pascaline Potvin.
Quoi d'autre et pourquoi aussi, en fait?
Bon, pourquoi? Alors, c'est compliqué, hein, quand même, parce qu'on voit arriver un inédit de Miles Davis. Il avait vraiment travaillé sur cet album, mais il n'était pas achevé. Puis, je l'ai dit, des routes un peu aventureuses. On a un petit peu entendu, mais beaucoup moins que dans d'autres titres. Il y a quand même des titres qui sont assez mid-80, pour parler à moitié français et à moitié anglais. C'est pas l'âge d'or de la musique, on va dire, Hugo Cassavetti, pour ce type de personnalité comme Miles Davis.
C'est pas l'âge d'or de la musique tout court, et c'est pas l'âge d'or de la musique de Miles Davis. Et... En fait, voilà, juste pour vous, depuis un certain temps, tous les ans, dans le rock, les Beatles, toutes les vaches sacrées, on arrive à sortir tous les ans des inédits, des chutes, la moindre bande, et les gens s'y intéressent. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme monstre sacré du jazz pour essayer d'exploiter ça? C'est toujours une industrie du disque qui ne cherche que ça, il n'y a que ça qui se vend. Donc il n'y a que, en gros, Miles Davis est la seule vraie star comme ça, crossover de qualité, et on cherche. Et là, en plus, non seulement c'est des chutes, mais ils ont forcément, on a un inédit, un vrai inédit. Après, le problème de Miles Davis, c'est les années 80, on sait bien qu'on aime passionnément ou pas Miles Davis, on sait bien, on retient les années 80, c'est pas ses meilleures années. Ce type a été globalement un des plus précurseurs, novateurs, révolutionnaires depuis la fin des années 40, et dans les années 80, c'est plus le cas. Il a connu le même problème que la plupart des gens, que ce soit du rock, dans les années 80, où ils sont contentés de s'adapter à l'ère du temps. C'est ce qu'il fait. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de disques. Et on voit bien que quand on revient sur Miles Davis, ça va être Kind of Blue, ça va être à la limite Ascenseur pour l'échafaud, ou bien sûr Beaches Brew. Mais personne ne s'extasie sur les années 80, Columbia, Warner, quand ils reprenaient, c'était pas désagréable, c'était de lounge très haut de gamme, Time After Time, The Cyndi Lauper et tout. Donc on se retrouve avec un disque qu'il a abandonné, on sait pas très bien pourquoi, parce qu'ils en ont pas voulu, il en a enregistré un autre, c'est Tutu dans la foulée, ou You're Under Arrest, quelque chose comme ça.
Moi je dis Tutu, mais enfin bon, peut-être comme vous
voulez. Et tout le problème est là, c'est qu'on a, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a, on l'a entendu là, encore plus qu'il n'y a pas de chant, à la fois, il y a la trompette de Miles Davis, qui reste toujours, si on l'isole, divine, parce qu'elle est reconnaissable entre mille et tout. Mais tout ça, c'est plus lui qui mène la danse, et il accompagne cette musique, air du temps, qui est de funk, FM, sans intérêt, à laquelle, effectivement, ils ont rajouté des voix aujourd'hui. Et c'est marrant, parce que c'est objectivement pas nul, mais sauf que ça ne nous intéresse pas, quoi. Si on n'a pas envie d'écouter ça spécialement, quoi. Donc, en l'écoutant, on rigole, on se dit, on a l'impression de regarder un film des années 80 avec Don Johnson ou quelque chose. ce qui est pas désagréable, mais voilà, ça fait cet effet-là. On a envie d'un peu plus quand on écoute du Miles Davis.
Parce qu'elle a une peau de vin.
Non, mais oui, je suis d'accord avec Hugo. En fait, c'est que cette trompette qui est divine et dont on sent la grâce dans quelques titres. Je pense que l'extrait qu'on a diffusé est un des meilleurs extraits, vraiment.
C'est pour dire.
Voilà. Mais c'est cette espèce de trompette qu'on a habillée. Comme ça, en fait, il y a un espèce de collage en deux temps. C'est pour ça que ça me fait penser à Frankenstein, parce que déjà, on ressuscite un mort en collant des choses autour. À la fois, les deux producteurs, donc Randy Hall et Zen Giles, qui ont travaillé sur le disque, disent, à l'époque, avec lui, Miles Davis voulait faire avec eux ce que eux faisaient à l'époque, quelque chose de commercial et funk. Mais ça donne effectivement ce son qu'a extrêmement vieilli des années 80, avec ses synthés très métalliques, ses basses slappées, cette guitare au fond distordue avec du tapping et tout. Tout ça a extrêmement mal vieilli. C'était l'époque de la toute puissance de la hi-fi. On vénérait comme ça ce son très plastique. Et je pense que tout ça, on peut plus. Et dans un deuxième temps, il y a ce deuxième collage où ils sont revenus rajouter des voix féminines. Et là, on est dans un truc très lounge, un peu cet R&B un peu sirupeux, qui effectivement n'est pas intéressant. Et je crois que les producteurs, dans les notes de la pochette, disaient... On voulait pas que ça reste un disque moribond qui reste coincé dans cette époque-là. On voulait le ramener vers le présent, sauf qu'il n'y arrive pas. Mmh. Il reste dans les années 80. Il va tout au mieux vers le R&B lounge du début des années 90, mais ça va pas plus loin. Ce qui n'est pas non plus exactement. Voilà, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
C'est vrai que l'ajout des voix, je suis d'accord avec le côté Frankenstein. Au départ, il voulait Al Jarreau et Chaka Khan.
Mais moi,
à ce moment-là,
Al Jarreau, hein.
Pourquoi pas, mais le fait est que de plaquer, j'ai rien contre les deux, Laila Attaway et Lady Si, enfin j'ai rien pour non plus, je les connais pas plus que ça, mais il y a quelque chose qui ne... C'est ce que je me suis dit en effet, mais c'est vrai que ça ne colle pas vraiment. Philippe Azoury.
Non, Hugo disait qu'effectivement Miles Davis ne menait plus la danse à ce moment-là, non seulement sur ce disque-là, mais même sur un courant musical qui est en train à ce moment-là de s'éteindre. Je vais me faire assassiner en disant ça, mais on arrive au tournant entre la fin des années 70 et le début des années 80, le moment où le jazz devient, pour ainsi dire, une langue morte. Je sais qu'on va recevoir.
Vous écrivez directement à Philippe Azoury. Moi, je veux rien savoir.
Courrier électronique ou pas, mais
enfin, c'est-à-dire qu'on reçoit assez de courriels comme ça.
Voilà. En tout cas, le jazz peine à rester vivant, mais c'est arrivé au rock aussi. C'est en train d'arriver à la musique électronique. Enfin, ça fait partie de l'évolution, et on est à ce point critique où Miles Davis n'est plus la personne qui est en train d'ouvrir la voie. C'est quelqu'un qui court après ce qui est en train de se faire dans la rue, en espérant capter un peu de l'essence. Et du coup, il habille. Effectivement, il fait de l'habillage. C'est-à-dire, tout le disque donne l'impression d'un costume Armani, un peu comme ça, avec un t-shirt noir à la Don Johnson, Miami Vice, posé sur un bout de rue qu'on imagine, je sais pas, enfin, ce serait New York, un New York même fantasmé, on pourrait dire sono mondial, pour parler comme Bizot à l'époque d'actuel. Et ça donne le risque de tous ces disques qui fantasment la rue, c'est que dans la rue, on peut aussi des fois mal marcher, et puis du pied gauche, ça porte bonheur. Et c'est le cas de celui-là. Enfin voilà, c'est un disque qui porte bonheur quand on marche du pied gauche dedans, pour le dire vite. Mais c'est aussi un disque dont on a mal à imaginer de quel chaînon manquant il serait, parce que We Want Miles, moi c'est un album que j'aimais pas beaucoup en 82, c'est un double album, mais ça avait quand même une certaine tenue. Decoy en 84, pour prendre vraiment les
oui,
disques
qui
entourent celui-ci, avec Antoine Marsalis et John Scofield, c'était quand même encore un grand disque. Hugo est dur sur You're Under Arrest. Moi, j'aime bien Time After Time, la reprise de Cyndi Lauper, j'ai un petit faible. Tutu, comme vous voudrez, en 86, donc au moment où il quitte Columbia pour aller chez Warner. Et à mon sens, à l'époque, c'était un album à la sortie, moi j'étais enfant, mais ça, qui m'avait quand même marqué. Aujourd'hui, il y a très longtemps que je n'ai pas réécouté. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de chaînon manquant entre ce disque.
Non, c'est une tentative, c'est une
embardée. Une tentative, et on voit bien que lui-même a conscience que c'est pas...
Ça, c'est bien, des embardées.
Voilà, oui, c'est une embardée.
Qui sont heureuses, celle-là, c'est peut-être moins. Hugo Cassavetti.
Non, mais pour donner une idée, je parlais du rock, on pourrait imaginer, alors on va pas se réjouir que Hendrix soit morto, mais qu'il y a eu énormément de disques posthumes, chaque fois à partir de ça, et chaque fois c'est extraordinaire, même comme c'est de second choix. Mais imaginons qu'Hendrix est survécu, et que dans les années 80, il se retrouve en gros accompagnateur de luxe de ce genre de musique. Ce serait atroce, sa guitare serait là, mais on n'en voudrait pas. Et en fait, ça se rapprocherait plus, le pendant, ce serait quelqu'un comme Clapton, qui dans les années 80, a fait des disques d'un ennui mortel aussi, à cause de la production et tout. Mais après, c'est des gens, dans les années 90, si on retrouvait, mais pour Miles, c'était trop tard.
Ouais. Bon, ça dialogue pas, effectivement. Ça dialogue pas avec tout ce qui se passe autour.
Ils sont dans l'air du temps. Dans l'air du temps.
Il n'y a rien qui peut dialoguer avec notre époque non plus. C'est ça, c'est que ça reste figé dans l'air du temps, et ça ne revient. Je ne vois pas comment ça pourrait revenir, ce son.
Brisons-la sur Rubber Band de Miles Davis chez Warner. Pour les, enfin, sont les fanatiques de Miles Davis se procureront ce disque. Si ce n'est pas déjà fait, nous avions envie de donner nos avis sur celui-ci. On va parler ensuite d'Ezra Furman, on va parler de King Gizzard and the Lizard Wizard et des Aussies.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec le 8e album d'Ezra Furman, le rocker queer de Chicago. Un virage en force 100% punk, totalement assumé par l'intéressé qui dit avoir été imprégné par le mauvais état du monde quand il s'est agi d'écrire et d'enregistrer ces 11 morceaux. 11 morceaux, 28 minutes. Hein, je dis souvent que les albums sont trop longs. Merci Ezra Furman d'aller à l'essentiel. On va écouter le morceau qui ouvre l'album, Calm Down, aka I Should Not Be Alone. D'Ezra Furman, ça me fait du bien. En tout cas, Calm Down, hein, qu'elle tutre absolument. Bienvenue pour ce morceau. Un premier sentiment sur ce disque, un sentiment synthétisé en quelques mots, Philippe Azoré.
Très impressionnant, très brillant.
Pascaline Potvin.
Un disque, le disque d'une colère saine, ça fait du bien entendre ça.
Hugo Cassavetti.
Un disque qui bizarrement évolue en régressant. Ouais.
Alors, vous nous expliquerez ça dans un instant, après que Philippe Azoré a développé son propos. Philippe, est-ce que comme moi, vous connaissiez mal Ezra Furman?
Très, 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 très mal.
C'est la joie de cette émission, ouais. C'est que des fois ça me pousse, et heureusement, enfin pas toujours, hein, à aller creuser un peu, et là tout d'un coup, découverte pour moi en tout cas.
Non, j'avoue, my bad, comme disent les Anglais. Enfin, vraiment, pourtant ça fait quoi? Ça fait au moins maintenant quasiment 15 ans, il a 32 ans, donc on l'a quasiment vu grandir en public. Soit avec son premier groupe qui s'appelait les Harpoons, jusqu'à, là ça doit être le 5e album solo. Il y a eu des passages en France, en plus c'est pas comme si on l'avait jamais vu, il est passé à Rock en Seine il y a quelques années. 4e?
Non, 5e solo, c'est 8e album et 5e solo.
5e solo. Oui. Mais c'est vrai que c'était un nom pour moi, avec surtout sur des clips que je trouvais toujours en général assez réussis. Et d'ailleurs l'alerte enfin de cet album est venue au début de l'été avec le clip de I Wanna Be Your Girlfriend. Le titre est déjà génial, venant d'un garçon. Ezra Furman, le clip est juste somptueux, en tant que clip, en tant que chorégraphie, si on veut savoir un peu plus sur ce que c'est aujourd'hui de mettre en scène l'amour ou les possibilités multiples de l'amour. Et puis il y a ce disque quoi, voilà, qui fait 32 minutes, qui a l'énergie énervée d'Undertones, qui a parfois, parce que c'est pas que punk, c'est vrai qu'il y a ce virage punk comme ça qui est assumé, il y a des moments qui sont un peu plus, des tempos un peu plus lents, où on lui découvre une voix qui est pas simplement glam à la Bowie, mais qui rappellerait presque le Brett Anderson de Suède, mais si ce n'est qu'il a, c'est accolé à une musique qui n'a pas du tout la préciosité un peu vaine que pouvait avoir Suède à l'époque, qui je trouve a une urgence aujourd'hui, c'est le disque de quelqu'un qui ne choisit pas ou le glam ou le punk. En fait, on s'aperçoit que toutes les étiquettes qu'on voudrait lui coller ne fonctionne pas, et que c'est précisément de même que sa sexualité est aussi totalement ouverte, que c'est quelqu'un qui a décidé d'être en 2019, c'est-à-dire au centre d'un monde qui a à reconstruire de bout en bout, d'où l'aspect, la colère aussi face à l'Amérique. Il y a un morceau qui s'appelle In America, qui est pour moi un des plus beaux du disque, qui est vers la fin du disque. Enfin, il y a un morceau sur les réfugiés, que je crois qu'il s'appelle Righteous Crusaders. Enfin, c'est le disque, j'ai l'impression, d'un gamin, mais il est plus gamin, d'un garçon de 32 ans, ouvertement bisexuel, mais dans un monde qui est complètement reconstruit avec tous ces codes, où toutes les étiquettes sont à la fois perméables, on peut les traverser, on les emprunte, on les rend. C'est fait sans ironie, sans cynisme, et c'est fait avec une passion absolue. Et moi, sa voix me bouleverse. Enfin, c'est une vraie découverte, Arnouche. Très content.
Parce qu'elle a une pote
grâce à vous.
Non, moi aussi, enfin. je suis d'accord avec Philippe et je rebondis sur ce qu'il dit, sur le fait qu'il n'y ait pas d'ironie. En fait, c'est vrai qu'avec un.
Ça fait du bien, ça aussi.
Voilà, un garçon américain de sa génération. On attendrait ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au début, quand j'ai écouté l'album la première fois, il y avait certaines paroles comme ça que j'entendais, où je me disais, mais ça doit, en creusant, ça doit être de la blague. Tous mes amis adultes maintenant écrivent leur CV. Mes amis morts trouvent la religion, mes amis intellectuels renient la religion. Je me disais, tout ça, ça doit être de l'ironie. Et quand on plonge dans les textes, il n'y en a pas du tout. C'est un disque qui est viscéral, qui est à l'os. Donc c'est pour ça que le punk lui va très bien. Je suis d'accord aussi, la chanson qu'on a entendue, il y a une citation des Rolling Stones, mais il y a tout le punk qui est là. Mais ça va des New York Dolls, ou même White Stripes sur le titre Trauma, même du Green Day à un moment, même ce côté punk à roulette, il y a vraiment tout. Et vraiment tout le punk comme ça, mais pour dégager un truc tellement viscéral et tellement fort, il y a ce côté terre brûlée en fait. Et qui dit très fort ce que c'est aujourd'hui d'être un homme trans, que malgré, on sent cette volonté de dire que malgré, on a l'impression qu'on est dans un monde quand même qui essaie d'être progressiste, mais dans un certain cercle sociaux, en fait, dans cette petite bulle. Mais lui, non, c'est encore difficile d'être un homme trans, c'est encore difficile d'être américain, c'est difficile de voir ce qui se passe dans le monde. Et ce cri ultra viscéral, ultra court et sans ironie aucune, je le trouve magnifique. D'autant plus qu'il est nuancé par ce magnifique titre, I Wanna Be Your Girlfriend. Là aussi, je peux pas m'empêcher de voir dans le I Wanna Be une référence aux Stooges, aux Ramones et tout. Mais qui arrive comme ça, ce doo-wop au milieu de toute cette déflagration, je le trouve très beau. Et là aussi, il pourrait être ironique, mais il n'est pas du tout. Et c'est un peu comme s'il disait, voilà, dans toute cette merde, je veux juste trouver l'amour. Et finalement, avoir un cri de rage, un cri d'amour, c'est juste la définition du rock'n'roll la plus basique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il finit par dire, puisque le dernier titre, c'est What can you do but rock'n'roll? Qu'est-ce qu'on peut faire à part du rock'n'roll? Probablement plein de choses, mais c'est déjà pas mal, surtout quand c'est fait comme ça.
Se reconstruire.
Ouais, c'est ça. Tout brûler, tout reconstruire, et je trouve ça très beau.
Hugo Casavetti, vous suivez depuis longtemps, vous, Ezra Ferman?
Apparemment, un peu plus longtemps. Moi, je l'ai découvert il y a à peu près, je sais pas, 6 ans à peu près, dans un tout petit club, je sais comment ça s'appelle, sur le pop-up du label à Paris, où il devait y avoir 20 personnes. Et effectivement, c'est tellement, ça fait tellement de bien d'avoir des révélations, mais modestes, et en même temps aussi intenses, comme ça, parce qu'on arrive, on le voit, il arrive, il était avec son groupe, ses deux musiciens, avec sa petite jupette et tout, mais en même temps, il n'y a rien d'affecté, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que tout est extrêmement spontané, direct, tout ce que vous venez de dire et tout. Et déjà, c'est un personnage, donc on étudie, on est pris par plein de choses que j'aime, ce mélange de punk, de glam, et avec toutes ces thématiques. En même temps, rien ne fait opportuniste en l'air du temps, parce que maintenant, il n'y a que ça, du LGBT, du trans et machin. Lui, c'est juste sa vie, il exprime. En plus, quand on se penche sur la question, il en parle beaucoup. Il vient de Chicago, d'une famille juive très pratiquante. Lui-même, et c'est assez marrant, quoi. Il reste à la fois très pratiquant, il ne joue jamais le vendredi en concert, tout en ayant ce combat de se sentir différent par rapport à sa famille, qui était de ne pas savoir, il se sent ni homme ni femme. Et à travers tout ça, il a une passion, forcément, pour toutes ces raisons, pour Lou Reed depuis très longtemps. Il y avait beaucoup de choses, il dit que oui, Green Day, Dylan, mais à un moment, il a découvert Lou Reed, et notamment Transformers, et toute l'histoire, qu'elle soit identitaire de Lou Reed, et même en tant que rocker et tout ça, sa vie, il sait, voilà, il est dans le prolongement de ça, et il court. Alors, ce qu'il faut savoir, quand j'ai dit de régression, d'évolution régressive, simplement, donc ça fait quelques albums que je suis, et il y a 2 ans, il a sorti un album assez magnifique qui s'appelait Transangelic Exodus, qui était un album un peu concept, beaucoup plus élaboré et sophistiqué, qui racontait l'histoire d'un ange en fuite, qui était lui à travers les États-Unis avec tous les problèmes d'être pourchassé et tout. Et on se dit, tiens, il a atteint un sommet, il évolue. Et donc, quand cet album est arrivé, la première fois que je l'ai écouté, je me dis, ouais, c'est un peu trop simple et tout. Sauf que tout ce qu'on a dit avant, toute cette passion, cette énergie, où il s'est aussi, il rend hommage, alors c'est un peu pointu, à un type qui s'appelait Jay Retard, qui était un punk américain extrêmement dépressif, qui faisait une musique très très speedée, et il est mort très vite. Et il disait, voilà, et pour lui, c'est quelqu'un qui a réussi à faire une musique d'une énergie folle avec sa dépression. Il dit ça, cette énergie-là, il la retrouve, et il remonte, et pour lui, il y a Chuck Berry, il y a ces gens-là, c'est toujours cette force de revenir à cette force du rock'n'roll, du punk et des choses comme ça pour exprimer tout ça, parler au nom de toute personne qui se sent décalée, exclue et qui regroupe toute une communauté. Il y a une chanson que moi j'aime beaucoup pour ce qu'elle exprime, c'est Evening Prayer, la deuxième, parce que c'est exactement une glorification, et alors si vous allez le voir sur scène un jour, de ce que c'est
un
concert, c'est effectivement, et la dernière fois qu'il est passé, je l'ai vu à Paris, c'était incroyable, parce qu'il a commencé à jouer ses chansons un peu plus douces et modulées, et petit à petit c'est parti, mais sans le moindre effet, et c'est devenu comme un concert des Cramps, mais c'est par lui, totalement possédé, quoi. Et c'est beau, ces concerts, où ils vous emportent dans leur... c'est habité, c'est-à-dire qu'il évacue tout, et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il est très... il est assez amer, inquiet sur l'état de l'Amérique, mais il dit, mais sinon, du coup, grâce à ça, je me sens plutôt bien le reste de la journée. Et donc, c'est toute la magie, et on dit, tiens, aujourd'hui encore, ça veut dire quelque chose, et je pense qu'il n'y a que ce mélange de punk et de rock'n'roll qui procure ça, qui permet aux gens non seulement de s'aider eux et d'aider les autres avec ça, quoi. Le plus drôle de tout, juste pour finir, c'est qu'il se désigne, le plus dingue, c'est qu'il se voit plutôt comme un écrivain, simplement que j'écris et que le meilleur moyen de le dire, c'est en faisant ses chansons.
Ouais, non, mais ce qui fait du bien, c'est que bon, je partage complètement ce qui a été dit autour de cette table, mais ce qui est quand même mystérieux, c'est pourquoi cet album agit aussi évidemment sur nous. À l'heure où il y a quand même 99,9% des albums qui sont marketés, préparés, on parle beaucoup du storytelling, plein de mots anglais que je réprouve dans cette émission évidemment. Et lui, il arrive et il y a une sorte d'évidence. C'est quand même c'est le mystère aussi de tous les arts, hein, mais c'est assez beau.
Cette grâce-là, ouais.
Philippe Azoré.
Non, c'est même étonnant parce que comme vous tous, on reçoit beaucoup de disques, on les écoute une fois, on peut trouver ça pas mal. Deux fois, on commence à s'en foutre un peu. La cinquième fois, si on arrive à la cinquième fois, c'est ouais. Déjà miraculeux.
Ouais.
Celui-là, moi, ça fait 6-7 jours qu'il ne me quitte pas. Et chaque fois que je l'écoute, il réinstalle l'idée que c'est un instant classique. Enfin, c'est un classique instantané. Que ce disque compte immédiatement. Pourquoi il a cette... Mais c'est la même chose. C'est le sort de charisme aussi très étrange qui ressort de ses vidéos. Parce que si on regarde bien... C'est une rockstar absolument née, mais de près, enfin, il a une dentition irrégulière, il a une peau dégueulasse.
Il y en a eu d'autres avant lui.
Il a une peau dégueulasse, le cheveu tend vers le gras, et il est fascinant. C'est-à-dire que dans les clips, on ne voit que lui. Donc c'est un ange, oui, effectivement. Transangelic Exodus, c'est un ange en exil, en exode. Il y a ce morceau qui est très beau dans l'album Transition From Nowhere to Nowhere.
On les aura presque tous cités, hein. Là aussi, hein. Pas de hasard.
Hugo, mais juste pour répondre à votre question, c'est alors pour nous autour de cette table, oui, quand on est face à cette multitude de disques qui sortent tout le temps, c'est ça qui est le miracle, c'est qu'on se dit bah voilà, il y a des disques qui nous touchent.
Et on aime toujours la musique.
Nous, ça nous touche. Après, regardez le top album, je pense pas que vous trouvez cet album au sommet, donc ce n'est que nous, malheureusement.
Oui, il y a quelques personnes qui nous écoutent, vous savez. Alors, si on peut les convaincre d'aller jeter une oreille.
Et à limite, c'est notre petit voilà. Mais on se sent.
On est là pour
seul,
le partager.
On se sent moins seul.
On se sent moins seul parce qu'il y a une pote de vin.
Non, mais je rejoins aussi ce que dit Hugo sur le fait que c'est un disque qui nous fait du bien, parce que quand on écoute beaucoup de musique, on est content de tomber sur un album comme ça, et sur ce que vous disiez aussi sur le fait que c'est un album qui... Pourquoi cet album nous fait autant de bien? Parce que justement, il va au-delà du storytelling, pardon, au-delà des mantras aussi. On est bombardé de mantras en permanence sur Instagram, ailleurs. Il faut aller bien, il faut faire des choses, il faut être parfait, mais il faut aussi penser à tout le monde et tout. Et en fait, on nous autorise jamais à nous mettre en colère. La colère, ça reste un truc, il faut qu'elle soit contrôlée souvent, il faut qu'elle soit mise pour un objet, il faut qu'elle soit dirigée vers une cible précise. Et là, c'est tellement un brûlot, cette colère qui éclate comme ça, je pense qu'il est cathartique aussi, ce disque, c'est pour ça qu'il nous fait du bien.
Puis c'est un beau titre, hein, 12 Nudes. Pour un morceau qui a 11 titres.
Il nous les a envoyés.
C'est le nom d'un tableau, c'est inspiré d'un tableau.
Ce disque de Ezra Furman chez Bella Union, et donc il sera en concert à Paris, à la Maroquinerie. Ce sera le 19 novembre. C'est l'heure du coup de cœur d'Hugo Cassavetti. Ce soir, il est pour le Disney Ossies qui s'appelle Face Stabber chez Castle Face Records. On écoute un extrait d'abord ou vous en parlez d'abord? Qu'est-ce que vous préférez, Hugo Cassavetti?
Un petit extrait.
Allez, un petit extrait. Petite dose d'Ossies. Ça fait pas de mal non plus, Hugo Cassavetti. Quelques mots sur cet album, sur ce groupe.
Alors pourquoi? Alors Ossies, c'est une histoire compliquée, parce que ce groupe existe depuis moins de 15 ans, mais ça doit être au moins le 22e album.
Ouais.
D'où le problème avec ce genre de groupe.
Bah, on va avoir le même avec King Lizard dans un instant.
John Dwyer, le leader, sort à peu près un disque en moyenne tous les 6 mois. Il est un peu le fer de lance de toute la scène alternative, psyché, garage, progressive de San Francisco. Son premier disciple, c'est Ty Segall, qui a un peu la même manie que lui de sortir des disques tous les 3 mois. Ce qui fait que depuis un certain temps, on alterne et de temps en temps, on en laisse tomber 2 ou 3 parce qu'il y en a tellement quoi à digérer. Celui-là, donc je pense qu'il est plutôt pas meilleur, mais en tout cas, il arrive à maintenir une identité précise. C'est assez rare parce qu'il a profondément cette esthétique. On parlait des Raffurman avant, il sait exactement d'où il vient et ce qu'il veut, c'est-à-dire en gros dans cette sphère dite garage, et peut s'autoriser dans cette sphère-là à avoir une certaine virtuosité, une possibilité de s'attaquer à tout. Et c'est ça qui est, je trouve, dans cet album assez incroyable, qui est aussi ou même monstrueux, comme ses pochettes que je trouve magnifiques.
Alors vous pouvez la décrire parce que vous la dites magnifique.
On voit une espèce de monstre sorti d'une fable de Lovecraft ou un truc comme ça. Ouais,
fond corail du meilleur goût.
Exactement.
Vert et corail, c'est parfait.
Et ce disque, alors c'est difficile de choisir un morceau parce que les meilleurs morceaux sont les plus longs. Le dernier, il fait plus de 20 minutes. On ne s'ennuie pas une seconde.
On l'entend toujours en soi.
Il arrive à construire. Il y a des morceaux très très courts et brefs parce que jusque-là aussi, parfois enchaîner ça sur scène, c'est assez dévastateur. Parfois, c'est assez effrayant. Et souvent, il y a 2 batteurs et c'est juste ce type tatoué, comme ça, nerveux, comme ça, tendu avec des trucs qui balance ces trucs. Mais petit à petit, il avance vers une musique qu'on aurait pu jouer par d'autres, pourrait devenir un jazz rock, tout ce qu'on veut. Ce morceau-là, il y a un côté kraut rock à l'allemande de Cannes. Parfois, ça part même dans du progressif. Et pourtant, ça ne lâche jamais la cadence. Cette exigence de partir de tendu. Oui, tout est tendu chez eux. Ce qu'il n'y avait pas, c'est que donc, on a rarement vu une virtuosité au service d'une. J'aime pas le mot efficacité là, mais de cette énergie, d'aller le plus loin possible dans un registre a priori étroit et finalement le plus large possible, mais en restant un groupe de... Oui, on va revenir aux mots de punk, de garage, et surtout pas de basculer dans la virtuosité vaine pour étudiants de Berkeley. Quoi.
Est-ce qu'ils vont venir en concert, les Aussies, là, bientôt?
Carrément, après-demain.
Ah ben, d'accord.
Donc, après-demain. Ne loupez pas.
Cherchez où, et vous
et
verrez.
Vraiment, il y a des morceaux incroyables. Il fait 80 minutes, et on...
4 morceaux, 80 minutes.
Non, il y a une quinzaine de morceaux.
Je plaisante, Hugo.
Mais...
Allez, les Aussies.
Voilà, c'est une expérience.
Le disque s'appelle Face Stabber.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et le dernier disque à notre sommaire est donc le 14e en 9 ans d'existence pour King Gizzard and the Lizard Wizard, combo australien qui s'est fait connaître avec un rock au départ plutôt psychédélique, mais qui a sensiblement ouvert sa palette, comme on le voit d'ailleurs dans ce nouvel opus, hommage au métal. Et au porteur également d'un message environnemental, on en parlera. On reproche quelquefois la dispute de ne pas faire entendre de jazz ou du métal. Bon, on a eu Miles Davis, c'était pas le meilleur, mais quand même. Voici Planet B de King Gizzard and the Lizard Wizard. Ah bah je sais pas si c'était chez vous comme dans ce studio. On va refaire des jingles, hein.
La dispute. Ouais.
Voilà, on va mettre ça tout de suite dans les tuyaux. Une synthèse de votre opinion sur ce disque, Philippe Azoury.
Généreux.
Pascal Inpotvin.
Et vachement bien le nouveau Metallica.
Hugo Cassavetti.
Bel exercice de style.
Bon. Ne mangez pas trop le micro, hein, je vous l'ai dit 17 fois aujourd'hui. Même si là, ça, effectivement, ça s'y prête assez bien. Planète B. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de planète B. Hein, parce qu'il y a un message. Derrière ce
c'est l'environnemental, tu veux.
J'ai pas entendu parce que j'étais tellement préoccupé par le fait que vous percutassiez. Vous disiez?
C'est de l'environnemental, j'ai compris.
D'accord, il aurait mieux valu que je n'entende pas. Même la deuxième fois. Pascaline, pot de vin.
J'aime.
Ça vous met dans un état,
oui,
en tout cas.
Moi, j'aime ce disque. Non, mais je pense qu'en fait, on a tous un moment métal, un moment qu'il dure 2 minutes, qu'il dure plusieurs
années. Il n'est pas encore arrivé chez moi.
Et ben moi, il vient et il se rappelle à mon bon souvenir de temps en temps. Et là, du coup, j'étais assez contente d'écouter ce disque. Donc, effectivement, comme le dit Hugo, c'est un exercice de style. King Lizard, c'est leur 14e album. Ils sont connus pour aimer jouer.
9 ans.
Voilà, faire des concerts.
Nous en fait 5 en 2017. Voilà, c'est que le deuxième cette année.
Le 31 janvier, le 31 décembre. Ouais.
Non mais voilà, il y a des albums. Je crois que le premier c'était un audiobook avec un concept de country. Il y a des albums folk. En fait, il y a un fil rouge à la limite, c'est le fait que c'est un groupe globalement plutôt tourné vers le psychédélisme.
Ouais.
Donc là, c'est l'exercice de style du métal avec un hommage à, je pense, la plupart de ce qu'ils ont écouté quand ils étaient ados ou ados. Metallica, Slayer, Motorhead, Black Sabbath, ils sont tous là. Enfin, surtout Metallica. Moi, vraiment, j'entends James Hetfield dès ce premier titre, qui est donc celui qui ouvre l'album. J'étais là, mon Dieu. C'est James Hetfield.
Et non,
c'est pas lui.
C'est Hugh McKenzie.
Franchement, James Hetfield, j'aurais pas ce qu'on va lui dire. C'est bien là ce qu'ils font en fait, en te copiant. Donc c'est un disque pastiche, mais il y a tout ce qu'il y a, tous les poncifs du genre, les riffs, on les a entendus, la double pédale, le tapping, les solis, il y a tout. La grosse voix qui fait peur, les refrains à reprendre en chœur, auto-cremate, self-immolate.
C'est pas un selfie à molette. Hein,
en gros, donc.
Immolez-vous
et qu'on entrons en autocombustion nous-mêmes. Donc voilà. Ce que je trouve bien, c'est au-delà de l'exercice de style, c'est vrai qu'on est un peu dans la blague potache. Il y a un truc que j'aime en fait, c'est qu'il y a ce truc psychédélique en fait qui fait vraiment partie de l'identité King Lizard et qu'on retrouve quand même au fil des titres dans un riff de guitare, dans un motif, dans presque une mélodie, si on peut vraiment appeler ça des mélodies. Mais voilà, il y a certains titres qui tournent un peu vers le stoner. Et ça, du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça me les raccroche un petit peu. Mais voilà, on va pas dire que c'est un peu plus que l'exercice de style. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le message écologique. C'est un concept album qui, quand on le prend au premier degré, raconte l'histoire d'une population, donc, qui est sur une planète en train de s'éteindre. Il n'y a pas de planète B, comme ils le disent. À la limite, il y a la planète Mars, mais c'est pour les riches. Donc, il y a un petit groupe de personnes comme ça qui va vers Vénus. Sauf que Vénus, c'est plus près du Soleil. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, on va cramer. Et donc voilà, je trouve ça, amusant.
Ça tombe bien.
On va tous cramer, donc en fait oui, c'est ce qui se passe. Et effectivement, comme le dit Hugo, moi j'aime les jeux de mots. Le environnemental, je suis assez cliente, j'aime bien ce concept. J'aime bien ce ludisme en fait, donc voilà.
Philippe Azoury, je ne vous connaissais pas ce goût métal.
Si, moi j'ai toujours eu...
C'est vrai.
Je suis un grand fan des Melvins. Alors du coup, moi ça me fait un peu penser à un autre King, qui n'est pas King Gizzard, mais King Buzo. Un des quatre membres des Melvins. Puis il y a toujours, enfin j'ai toujours un côté, Pascaline citait le stoner, j'aime bien Home, même les grands moments un peu plus métal de Sono, At The Drive-In. J'ai l'impression de les c'est vrai, enfin, parce que King Gizzard, avec leur côté, ont fait 14 albums en 4 ans, 5 ans, on en sort 6 ou 7 la même année, dans le 31 décembre. On sent qu'on est plus proche d'un groupe comme les Télé Melvins, c'est-à-dire à la fois un groupe métal, mais un peu arty, un peu pour école d'art, que le fan de Whitesnake ou Vulcain, enfin, des groupes de métal pur et dur. Avec peut-être cette distance, et pour le coup, ironie, on parlait d'ironie. il y a 5 minutes, qui peut-être, j'imagine qu'un vrai hardos, un vrai métalleux, peut-être ne s'y retrouve pas, un fan d'Iron Maiden, peut-être voit ça de loin. Moi, je vois ça autrement, il y a ce côté prolifique, c'est pas la première fois, tout le monde a l'air de s'en étonner. On avait un peu communiqué cet été par messagerie interne sur Instagram, sur une autre folie commune qui est ailleurs.
Ouais.
Mais c'est vraiment le concept de studio comme instrument. J'ai pas l'impression, Bauhaus aussi a fait ça dans les années 80, les gens de la techno qui passent leur journée en studio et qui sortent des disques à n'en plus finir. J'ai l'impression que c'est pas le projet ici, c'est pas le studio comme instrument, c'est plus épuiser tous les styles musicaux possibles, imaginables. Pascal Inn citait, il y a eu de la country, à un moment il y a eu de la poésie, du psychédélisme. Et là, on est sur depuis 6 mois en plus. C'est encore assez récent leur virage métal. Ils n'ont pas encore réinventé le métal. On n'en est pas là. Mais on n'est pas chez Sono qui
on est dans l'hommage.
On est dans l'hommage. Cet hommage fait du bien.
Plus que le pastiche, moi je trouve. Vous avez employé le mot de pastiche. Moi,
oui,
je pense que c'est plus un hommage.
Je sais pas.
Crier ce message environnemental. On vient de métal, ils se sont dit que c'était le
mais non, mais c'est
bon genre.
C'est intéressant parce que ils ont ce truc qui est bien, c'est qu'c'est un groupe très très généreux au sens où c'est un peu les André Antoine du psychédélisme. Ils ont fait tomber le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il y a toujours le public est invité à participer ou à remixer les morceaux. Ils ont des morceaux qu'ils ont sortis en lien en disant à leurs fans mais créez un label, sortez-le en physique, sortez un vinyle, sortez une cassette. Et là j'ai l'impression que le côté venez faire du métal avec nous et puis on verra où ça va nous amener. Peut-être qu'effectivement c'est un grand vaisseau qui part vers une planète qui crame un peu, qui est la planète métal. Mais c'est ça, moi, qui m'intéresse chez eux, parce qu'on voit leurs disques dans tous les magasins disques, ils en sortent tellement, donc ça commence à occuper un terrain. Il y a une fanbase, il y a une base de fans très très forte. J'ai
c'est
un
beau,
racisme,
c'est
je,
bon,
je
bravo,
mettrai un euro dans
bravo
le cochonnet.
Mais
tous les disques ont la même pochette faite par Jason Gallet avec un château, des signes, des jeux de pistes. Il y a cette idée qu'on fait partie de la communauté King Gizzard.
Hugo Cassavetti.
Oui, j'entends tout ça. J'ai toujours un blocage, mais alors si j'ai choisi Léo Six, je pensais que ça passerait après. C'est que d'abord Léo Six est un peu le John Dwyer, et je crois que c'est le premier. Il a sorti leur disque au début. Pour moi, il y a une différence majeure. C'est que ce qui m'intéresse chez Léo Six, c'est que c'est une vision de John Dwyer, qui, ce que j'expliquais tout à l'heure, il poursuit, il creuse un sillon, il élargissant sans jamais perdre de vue. Sa vision initiale. King Gizzard, j'ai l'impression que c'est une proposition de gens assez virtuoses qui sont sont passés par tous les genres. C'est un peu ils ont fait un album de folk, un album de psychédélique. Et c'est un peu j'ai l'impression toujours je dis toujours que les gens qui aiment tout n'aiment rien. Et j'ai l'impression qu'à force de pratiquer tout, il y a un problème, c'est que du coup ils n'ont pas de style. Ils le font très bien à chaque fois. Alors je sais que dans le cas du métal, j'ai lu ils sont plus que 3 là parce qu'ils sont 6 ou 7.
Oui, ça dépend des albums.
Et là, parce qu'effectivement, quand ils étaient jeunes, leur passion c'était les groupes comme Metallica, Creator et je crois beaucoup Sodom, que je crois qu'Arnaud aime beaucoup. C'est complètement.
Mais... je vous laisse la responsabilité dessus. Mais c'est vrai, je vous dis que j'ai pas eu encore d'instant métal, mais ça pourrait venir.
En tout cas, que je goûte particulièrement. Mais, et que simplement, s'ils ne faisaient pas cette musique-là.
Il rigole tout seul. Si vous voulez, je pose une question parce que je sens que vous êtes mal parti, mon cher Hugo Cassavetti.
C'est parce que c'était paradoxalement. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens très très perfectionnistes, virtuoses et tout. Sauf qu'à l'époque, ils n'ont pas fait ce métal extrême. Ça a été la grande différence des années 80. C'est que cette musique brute était techniquement extrêmement pointue et impossible à jouer. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire du psyché et tout ça. Donc c'est un peu leur rêve d'aboutir. Ça y est, maintenant on peut jouer.
Ils savent jouer.
Mais
c'est bien.
Ce qui me gêne, c'est ce côté. C'est bien fait, mais et je sens pas une âme, une identité que vous avez l'air d'entendre là-dedans. Mais je connais beaucoup de gens qui disent que c'est génial sur scène, ils sont dingues.
Au bout du 30e album, ils rentreront dedans. France. Il nous reste 2 minutes 30 pour un débat express. Place du métal dans vos rédactions respectives. On a ici Télérama, Grazia et Vanity Fair. Est-ce que le métal a sa place dans Grazia?
Très franchement, c'est vrai qu'on le...
Qu'il ne l'a pas non plus dans la dispute.
On ne le traite pas. C'est vrai qu'à Grazia, il faut qu'on... on a de la place, mais pas non plus étendue.
Ça concerne un continent d'auditeurs et d'auditrices.
Vous me posez la question et je pense effectivement qu'on devrait... on devrait y faire davantage attention. Après, je pense que c'est aussi une question de place, parce que on traite les disques qui sont a priori les plus, ceux que notre lectorat attend le plus. Mais un disque comme ça, peut-être, pourrait justifier qu'on s'y penche, parce que justement, on apprend quelque chose. On apprend l'existence d'un groupe. Je pense que toutes les lectrices de Gradia connaissent pas King Lizard. Et je pense que, voilà, ce côté, c'est des gens comme plein, dans beaucoup d'entre elles et d'entre eux, parce qu'il y a aussi des lecteurs de Gradia. Ce ne sont pas que des filles intéressées qui ont, le combat environnemental, il passe par plein de façons de le vivre et, ça pourrait le rendre intéressant.
Et dans Télérama, Hugo Cassavetti ?
Moi, un peu old school, j'ai fait les Motorhead et ces trucs-là, et je les couvre, King Gizzard en traite. Mais depuis maintenant un ou deux ans, il y a une fille chez nous qui s'appelle Marie-Hélène Swanen, qui à peu près tous les mois... alors elle, c'est très étroit pour elle, Metallica, c'est de la variété. Donc, mais oui, elle,
ouais, je vois bien, oui, une touriste, quoi.
C'est essentiellement du dark metal scandinave. Et j'adore ça parce qu'elle est passionnée de ça. Pour elle, le reste. Et elle peut chaque fois être prise de transe. Elle écrit là-dessus. Donc, c'est à la fois une niche. Mais de toute façon, maintenant, on ne peut plus traiter les choses de niche faites par des gens passionnés. Donc, la case, elle est là. Je lui dis, ben voilà, trouve un disque qui te transporte. Donc, on revient toujours à la même chose, que ce soit Ezra Furman. Et ça, c'est le seul intérêt. C'est les disques qui nous transportent, puisqu'il y a tellement de choix à faire.
Alors, Manifère, c'est tout nouveau. Philippe Azori, mais il y a eu quelques rédactions avant.
Oui, puis... Joseph Gosne a écrit juste avant que j'arrive au mois d'avril, au mois de mai sur Sono.
Et je voilà, pense... c'est du metal plus plus, hein.
Mais ce que dit Hugo a du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de la musique n'est plus qu'un marché de niche. Et que finalement, c'est, pourquoi pas cette niche-là, plutôt que l'électro, ou le rap français, ou le trap, ou quoi qu'est-ce. L'autre chose dont parle Pascaline aussi est intéressante. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un groupe qui peut faire un point de rencontre entre une scène une scène qui est très fermée, qui est très codifiée, et un plus grand public. Effectivement, une personnalité comme King Gizzard et à peu près l'aspect très drôlatique qu'ils ont sur scène peut ouvrir à ça, et ça peut être effectivement un groupe qu'on peut traiter. Et puis on a une personne au journal à Vanity Fair qui s'appelle Constance d'Auvergne et qui a souvent un t-shirt Bourzoom, donc je pense à elle, il y a une place pour le métal dans Vanity.
Ah, il y en a une petite ce soir dans la dispute, on va essayer de la tenir ouverte. Infest the Rat's Nest de King Gizzard and the Wizard, Lizard Wizard, c'est chez Flightress Records. Ils seront le 13 octobre à Esch sur Alzette, le 14 octobre à l'Olympia à Paris. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint pour nous donner d'abord la réponse du jeu d'hier au soir, sa question avant.
Quand la première représentation du spectacle art a-t-elle eu lieu ? Et c'est le 28 octobre 1994.
On fait gagner ce soir des coffrets de la trilogie du Niarchan, le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares et la chute de l'Empire américain. C'est distribué par Jean Defaite. Quelle est la question ?
En quelle année le premier film de la trilogie de Danny Arcan est-il sorti ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. La prise de son ce soir, Morgane Danan, qu'on préviendra quand on fera une prochaine émission métal. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, une émission dispute art plastique avec Ingrid Lukegad, Florian Guettet, Stéphane Coréard. Nous parlerons de Nous les arbres à la Fondation Cartier, le mobilier d'architecte à la Cité de l'architecture et du patrimoine, La peur d'aimer, Orsay vu par Tracy Emin.